Voilà. Alors bonjour à tous, parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer les uns et les autres individuellement. Un petit mot d'abord sur qui avez-vous en face de vous. Je ferai donc le cours de Christologie au second trimestre. Donc, Bernard Clazen, je suis prêtre du diocèse de Nanterre depuis maintenant 40 ans. Ouais, ça fait quand même un petit bail. À Boulogne-Billancourt. C'est vraiment à côté, c'est à 10 km d'ici. Principalement à Boulogne-Billancourt, je suis occupé le soir, tous les soirs et tous les week-ends. Pendant la journée, je ne suis pas un prêtre, disons, de paroisse. Je suis à l'Institut catholique de Paris, au CIF ou ailleurs, pour enseigner. Donc j'ai mis le CIF au centre, vous voyez, parce qu'on est au CIF. Quand je suis à la Cato, je mets la Cato au centre. Alors, l'Institut catholique de Paris, je suis philosophe, je relève de la faculté de philosophie, puisque j'ai une thèse de philosophie il y a quelques années, mais avant j'avais fait de la théologie, et je suis revenu en fait à l'enseignement de la théologie par le CIF. Au séminaire d'Issy Moulineau, où j'enseigne aussi, j'enseigne la philosophie. Donc des grands cours, c'est la philosophie contemporaine, philosophie de la nature, anthropologie philosophique. À l'Institut catholique, j'ai principalement philosophie morale, anthropologie également, et puis je m'occupe aussi des premières années et secondes années des licences humanité. C'est des petits jeunes, vous savez, qui sortent du bac, à qui on propose une culture générale, en attendant qu'ils puissent discerner leur centre d'intérêt. C'est particulièrement intéressant. Et puis, à l'Institut catholique aussi, j'ai un petit truc, bon, qui m'occupe pas mal, parce que c'est en principe niveau master, l'ISTA, Institut supérieur de théologie des arts. À l'Institut catholique, tout est supérieur. Alors, c'est Institut supérieur de liturgie. Bon, nous, ici, on est le CIF, et on n'est pas supérieur. On fait de l'initiation. Voilà. Mais là-bas, tout est supérieur. Donc, théologie des arts, où j'y enseigne. Alors, comme c'est des masters, on a chacun une spécialité. Et moi, c'est l'architecture sacrée. Mais vous verrez, dans le cours de Christologie, que je suis très attentif à l'art chrétien, aux traditions héritées de l'esthétique, en particulier sous ses formes chrétiennes, et que j'y vois même une source de documentation. Pour moi, un tableau de Delatour vaut une lecture de Karl Rahner. Voilà, donc, évidemment, c'est... Alors, mon cours de Christologie est beaucoup, beaucoup fondé sur ce qu'on va appeler l'iconologie. Voilà, un terme savant, ça veut dire étude des images, ou laisser parler les images. Donc, voilà. Sinon, à Boulogne-Billancourt, j'ai une petite spécificité, c'est que je suis le prêtre accompagnateur d'un groupe de pop louanges depuis que j'y suis arrivé. Alors même avant, je les avais, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Glorious. Voilà. Alors ils ont engendré un autre groupe qui s'appelle Open, et donc je suis le prêtre accompagnateur de Open depuis tout le temps. Et ils étaient à Boulogne, donc j'ai été nommé à Boulogne pour lancer une espèce de grand messe le dimanche soir, tous les dimanches soirs, avec toujours pop louange. Et donc c'est moi un peu qui suis... Alors j'essaye de ne pas y être tous les dimanches soirs de manière à ce que ça ne devienne pas ma messe. Mais en effet, ça m'a quand même... qui l'eût cru, hein. Moi, vraiment, il y a 30 ans, j'étais à mille lieues de penser que je ferais ça un jour. En fait, ça se passe très bien. C'est un peu lassant comme musique, vous voyez, là au bout, c'est ma septième année. Bon, ça va, je commence à avoir fait le tour de leur répertoire. Mais c'est très intéressant parce que ça attire évidemment une population qui s'ennuie à la messe. Ça attire la population de ceux qui s'ennuient à la messe, mais qui y viendraient bien volontiers. Et donc voilà, on les attire. C'est la messe la plus chargée de tout Boulogne-Billancourt. Je suis dans une église qui a 1350 places. C'est un bateau. Et c'est pas rare qu'on soit 500, 700. La moyenne d'âge, évidemment, je fais le grand-père. Hein. Donc, voilà. Donc voilà pour me présenter. Alors maintenant, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que le Centre pour l'intelligence de la foi. Et d'abord, je voudrais tenter de vous dire ce qu'est l'intelligence de la foi. Au CIF, on est plutôt pour, C'est pour ça, vous voyez, qu'on dit centre pour l'intelligence de la foi. Parce que c'est rigolo, quand on est interviewé, parfois, les journalistes se trompent et disent le centre de l'intelligence de la foi. Alors, moi, je préfère que ce soit l'Esprit Saint qui soit le centre de l'intelligence de la foi. Nous, on est juste pour. Voilà, on y travaille volontiers. Ou si vous voulez, la question, c'est comment s'articule, s'harmonise la foi et la raison. Question qu'on s'est toujours posée dans l'histoire de l'Église, hein, depuis saint Augustin jusqu'à Ratzinger, en passant par tous les autres. Mais tout de suite, dire que l'intelligence de la foi, ce n'est pas une foi d'intello. Vous voyez, un petit truc là, important à bien piger, on peut réfléchir à la foi sans être pour autant un intello. Et la foi que nous allons proposer, que nous allons exposer, n'est pas réservée aux intellos, bien sûr. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je fonde mon cours de christologie sur du sensible, l'esthétique. Voilà, vous voyez, c'est, et il y a d'autres expériences qui sont tout aussi heureuses pour la foi que l'intelligence. Mais l'intelligence, la raison, disons, est une dimension essentielle de notre existence. Mais il y a d'autres choses qui nous enseignent. Par exemple, l'existence sociale, qui nous apprend énormément. L'existence fraternelle, l'existence sensible et spirituelle, et incontestablement, l'existence intelligible. Et tout ça, ça compose notre être humain. Donc là, je vous fais un tout petit écart en anthropologie. L'anthropologie, c'est ça. Qu'est-ce qui compose un être humain ? Ben, c'est cet ensemble-là. Et on ne peut pas dire qu'il y ait une dimension qui puisse être absente de notre humaine condition. Ni le sensible, ni le frère, ni l'intelligence, ni le recueillement. Et alors, c'est vrai du fait chrétien, mais je crois que c'est vrai du fait humain. S'il manque une de ces dimensions, vous boitez. Et donc voilà, je ne mets pas l'intelligence de la foi plus haut que le reste. Voilà, donc voici ce que je vais vous exposer. Je vais essayer quand même de ne pas trop traîner. Hein. D'abord deux images, le statut de l'interrogation, et puis les dimensions, les différentes dimensions d'intelligence. Et puis théologie, point d'interrogation, je ne le ferai pas parce que tu en as parlé déjà. Alors, deux images. Ma première image, très originale, j'ai beaucoup cherché, c'est celle du site. C'est celle de la première page du site du CIF. Je connais cet endroit, j'y suis allé plusieurs fois. C'est le monastère Grégoire l'Illuminateur à Artachat, au pied du mont Ararat. Donc c'est en Arménie, d'où est prise la photo, et d'autre côté, c'est la Turquie. Nous pourrions croire que ce que nous allons aborder est immense, inatteignable, que ce sont des sommets vertigineux. Penser, étudier la foi, est-ce que ce n'est pas vertigineux? Est-ce que c'est bien possible? Penser Dieu, est-ce que ce n'est pas vertigineux? Est-ce que ce n'est pas tout simplement impossible. Nous avons raison, c'est hors d'atteinte. Mais nous pouvons y participer en deux sens. D'abord, en nous, il y a les connexions nécessaires. Il y a en nous ce désir de connaître. L'homme naturellement cherche à comprendre. Nous sommes dotés par nature d'un désir de comprendre. Et puis la deuxième chose, c'est que la foi, le désir de l'absolu, nous ont déjà fait grandir et ont déjà ébauché en nous une sorte de réponse, d'écho, d'accord avec cette immensité. Donc vous voyez, ce n'est pas inatteignable, parce qu'en fait, nous y participons déjà. Ça, c'est très important de comprendre ça. Ensuite, les pensées qui montent vers les sommets participe du sommet. La mine de rien, je viens de vous faire, là, dans ces deux points, du Denis Lerupagite, un moine syrien du VIe siècle. Qu'est-ce que j'entends quand je dis les pensées qui montent vers le sommet participent déjà au sommet? C'est tout simplement le fait qu'à partir du moment où vous êtes en marche, vous avez un mode de connaissance effectif. Il ne faut pas attendre d'être licencié, agrégé, docteur, pour dire « je comprends la foi » ou « j'ai la foi ». « J'ai la foi » précède. Et à partir du moment où on se met en marche, on participe au sommet. Et on n'y participe pas par ébauche, par bribe, par miette, par séquelles, par poussière. On y participe d'une manière existentielle. Et ma photo pour illustrer ça, c'est évidemment une randonnée. Quand vous faites une randonnée, vous faites une randonnée. En fait, vous vivez. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », si vous coupez un des termes, ça devient faux. Il n'est la vérité qu'en chemin. La vie, en vérité, c'est être en chemin. Et donc aussi, qu'est-ce qu'on fait? On se met en chemin. Voilà. Mais c'est la vie. Et en fait, vous participez à la vérité. Et la vérité, vous ne l'aurez jamais. Je ne l'ai pas. L'Église ne l'a pas. Léon ne l'a pas. La vérité, on ne l'a pas. On ne la possède pas. Elle vous appelle. Elle vous attire. Elle vous anime. Première image. Deuxième image. On est à Strasbourg, mais on pourrait être n'importe où ailleurs. C'est l'arc-boutant, ma deuxième image. Première image, la randonnée sur le mont Ararat. Deuxième image, l'arc-boutant. L'arc-boutant, c'est quoi? C'est une poutre oblique qui vient consolider le haut du mur en son endroit devenu le plus faible du fait des poussées obliques. Vous savez, on l'a vu très clairement quand on a restauré Notre-Dame. Comme il n'y avait plus de poussées obliques, il fallait à tout prix consolider les arcs-boutants, qui ne tiennent que parce qu'il y a de la pression sur eux. Vous vous souvenez de ça? C'était génial, on a vu des photos extraordinaires. J'espère qu'on fera des albums de photos avec le chantier de restauration de Notre-Dame. C'est un moyen très efficace de comprendre l'architecture gothique. Donc ça, oui, j'ai lâché le mot, c'est de l'art gothique, dit ogival. Qu'est-ce que c'est que cet art gothique? C'est un art qui veut monter vers Dieu, mais qui veut monter vers Dieu en tant que clarté. On a voulu cette lumière. C'est ça la différence avec l'art roman. Là, on veut l'évidence, on veut la clarté, on veut participer à cette lumière, à cette illumination. Alors à la période où on a construit ça, fin du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, c'était évidemment la lumière de l'intelligence, la lumière de la foi. Et ça nous invitait à cheminer, vous voyez, comme cette nef gothique qui nous attire vers son sanctuaire. En fait, rien de cette fine structure sophistiquée ne tiendrait sans la masse des appuis. Et donc, c'est une image que j'utilise des rapports réciproques entre la foi et la raison. La foi, c'est la lumière. La raison, c'est l'arc-boutant. Et vous, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à l'instant sur Notre-Dame, les arcs-boutants ne tiennent pas seuls. Ils sont comme dynamisés par la poussée qui s'exerce sur eux. Et donc votre intelligence ne fonctionnera que par la demande de la foi. Et la foi sera étayée par l'intelligence. Voilà, vous voyez, il y a un rapport absolument extraordinaire dans les autres. Et c'est comme ça que nous pouvons participer, effectivement, à la lumière. Encore une fois, la pleine lumière, ce n'est pas pour nous. Nous, nous serons dans une espèce de dialectique du cheminement de l'ombre et de la lumière. Alors parfois, peut-être, quelques-uns ont de véritables illuminations intellectuelles. Mais c'est tout à fait possible. C'est génial. Mais la pleine lumière, on ne l'a pas. Comme la pleine vérité, on ne l'a pas. Par contre, on croit qu'elle existe. Et on croit qu'on peut y participer, et on croit qu'on peut s'en nourrir. C'est ça le top de la foi chrétienne. Alors une petite image, vous voyez, qui vous montre, du point de vue technique, les poussées. Hein, c'est pour rigidifier, ben vous le savez peut-être, hein, pour rigidifier un mur, il faut que ça pèse. Un mur sur lequel rien ne pèse, ben il va s'effondrer très facilement. Regardez les clôtures de grandes propriétés. C'est très difficile à entretenir parce que rien ne pèse dessus. Et donc, nous nous auto-portons pas. Nous avons à tout prix besoin que ça pèse, que le désir de la foi l'emporte, que la fraternité soit supérieure à l'intelligence. Mais nous serons d'autant mieux fraternels que nous y pensons. Bon, voilà. L'arc-boutant. Pour la gourmandise, Notre-Dame. C'est quand même Notre-Dame, je pense, une des églises où il y a les plus beaux arc-boutants. Voilà. Bon, sinon, disons-le entre nous, mais vous ne le répéterez pas, hein. Chartres, c'est quand même mieux. C'est vrai, c'est beaucoup plus théologique, Chartres. Beaucoup plus théologique. Mais alors, pour les arc-boutants, c'est Notre-Dame de Paris. Maintenant, deuxièmement, le statut de l'interrogation. Se poser des questions, réfléchir à la foi, s'interroger. Vous vous posez des questions. Vous avez parfois des doutes, vous avez envie de comprendre, alors le CIF est fait pour vous. Vous en avez assez qu'on vous empêche de réfléchir parce que ce serait soi-disant un mystère. Le CIF est fait pour vous. Le mystère n'est pas un empêchement, il est un appel. Il appelle tout en vous, votre participation active, votre intelligence, vos émotions, vos amitiés, vos expériences mystiques, banales, quotidiennes ou exceptionnelles. Tout est habité de mystère, de présence et de sens. Le mystère, appelons-le présence de Dieu en nos vies, n'exige pas le mutisme, mais au contraire, il veut venir à la parole. C'est ce que nous tentons de vivre avec vous. Vous vous interrogez, vous avez des doutes, c'est plutôt bien. Encore faut-il distinguer. Ah, parce qu'il y a doute et doute. Je distingue trois types de doutes. Il y a le doute sceptique, boudeur, celui qui fait le malin, celui à qui on ne la fait pas, souvent armé de questions prétextes. C'est-à-dire, il vous pose une question pour ne pas réfléchir, pour rester sur son quant à soi. Ça, ce type de doute, je vous le conseille, je vous le déconseille radicalement. Il faut fuir ce genre de comportement. Il y a un autre doute. Celui-là, vous le connaissez. C'est le doute méthodique. Celui de René Descartes, vous savez. En fait, c'est une méthode pour comprendre. Ce n'est pas vraiment un doute. C'est une interrogation. Questionner, interroger, penser, chercher avec méthode. Ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est infiniment mieux que le premier. Et puis, il y a un troisième type de doute, et celui-là, évidemment, il n'est ni recommandable, ni désirable, c'est le doute abyssal. Et c'est une épreuve. Mais ça peut arriver. Le doute abyssal, c'est quoi? C'est quand tout d'un coup, le sol s'effondre sous vos pieds. Que vous vous demandez après tout, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Vous voyez, ce genre de truc, hein. Moi, j'ai connu des prêtres qui ont eu ces crises-là. Alors ça, vous voyez, ce sont des crises desquelles nous ne sortons que par la fraternité. Pas par l'intelligence, ni la participation émotionnelle. Ça, c'est génial. le sacrement du frère, diraient les Byzantins. Et donc, chercher, s'interroger, c'est plutôt bien. C'est ne pas s'interroger qui pose un vrai problème. Une histoire que je vais vous raconter. Quand j'étais en Turquie, j'y vais moins en ce moment, à cause d'un mec qui gouverne ce pays. Mais j'ai beaucoup été en Turquie, 30, 35 fois, à un point tel que je travaille avec une agence de voyage turque, et quand je guide des groupes là-bas, on me met des stagiaires avec moi, des gens qui font une école de tourisme. Et de temps en temps, j'emmène des groupes de jeunes, jeunes étudiants. Et je me souviens très bien, une fois, j'avais un groupe d'étudiants et j'avais trois stagiaires avec moi, turcs donc, qui parlent français, c'était la seule condition, et qui voulaient être guides en Cappadoce. Cappadoce, vous connaissez ? Alors, c'est magnifique, c'est au cœur de l'Anatolie. Et alors, on se baladait toute la journée, j'expliquais mon truc, et puis vous connaissez les jeunes d'aujourd'hui, ça fuse de questions. Il y avait 1000 questions devant les fresques cappadociennes, c'est de la très haute théologie byzantine. Et le soir, à dîner, ça continuait à m'interroger. Et puis, au bout d'un moment, ils ont fraternisé entre eux, bien sûr, hein, les jeunes de 20 ans. Et je voyais pendant le repas les jeunes turcs qui chuchotaient à l'oreille de leur voisin français, et le voisin français me posait une question. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était la question du turc. Et donc, je me suis interrogé, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me poses pas la question directement ? Et il me dit, mais c'est blasphème. C'est con. C'est hallucinant. Hallucinant, quoi. Et alors je lui dis, mais non, c'est pas blasphème. Parce que justement, c'est pas un doute sceptique, c'est pas un doute moqueur. C'est un doute qui cherche à comprendre, c'est-à-dire qui, au contraire, honore le Créateur, qui nous a créés avec une intelligence. Et donc, il veut qu'on en use. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite anecdote très intéressante. Ceci dit, donc nous, on est plutôt pour, vous avez compris, on est pour le travail de l'intelligence. Ceci dit, peut-être que, au fur et à mesure de vos cours, vous aurez peut-être le sentiment que s'interroger comme ça, ça risque de faire s'effondrer les échafaudages ou les constructions que vous aviez jusqu'à présent. Et vous dites, mais enfin, comment ça se fait ? Ça va arriver pour la Bible, ça va arriver pour la Christologie. Vous apprenez des trucs, vous dites, ah, mais on m'a jamais dit ça. Alors, il y en a qui s'en réjouissent en disant, ah, enfin, on m'avait jamais dit ça. Et d'autres qui disent, ah, mais on m'a jamais dit ça. Et là, ils ont l'impression que ça s'effondre. Alors non, rassurez-vous, ça s'effondre pas. Par contre, nous cherchons à creuser les questions. Mais nous le faisons avec méthode, à la différence des Dalton. Voilà. Et donc, rassurez-vous, si ça ébranle un petit peu de temps en temps, si les meubles tremblent, vous inquiétez pas. En fait, nous sommes en train de travailler les fondements, et c'est pour mieux ouvrir ce qui nous enferme. Et s'il y a des choses qui s'effondrent, c'est très probablement des choses qui nous enfermaient. Et on veut bel et bien, par le travail de l'intelligence, alors par le travail du sensible, par la méditation de l'écriture, on veut bel et bien construire. Ce à quoi nous travaillons, c'est bel et bien édifier, consolider. Donc voilà. Il y a plusieurs dimensions de l'intelligence. Dans le domaine de l'intelligence, de la pensée, on peut distinguer trois modes différents et complémentaires. La raison, le cœur et l'esprit. Vous allez me dire, mais le cœur, ça ne fait pas partie de l'intelligence. Eh bien si. Ça dépend ce qu'on entend par cœur, bien sûr. Mais même si vous entendez par cœur uniquement la dimension sensible, même elle est source d'intelligence. Par exemple, ne me dites pas que vous n'apprenez rien en aimant quelqu'un. On apprend beaucoup. Ne me dites pas qu'on n'apprend rien quand on souffre d'une maladie, ou quand on exulte devant la beauté d'un paysage. C'est incroyable ce qu'on apprend. Alors on le vit d'autant mieux, et on vit d'autant mieux la dimension sensible, qu'on arrive à y réfléchir. Donc vous voyez, les choses sont nouées. Raison, cœur, esprit. Ce que je vous dis là, je le tire d'un auteur qui a eu l'honneur récemment, cette semaine, d'une émission Arte, Jean Kelevitch. Alors lui, il donne plusieurs dimensions à ce qui vient alimenter l'esprit. Pour lui, l'esprit, c'est le beau, notre tempérament, nos convictions, la spiritualité, la conscience, les opinions, les croyances. Vous voyez, c'est ça l'esprit. Et donc, vous voyez que ce n'est pas uniquement des choses qui relèvent de la déduction rationnelle. Voilà, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Mais tous ces éléments-là, le beau, le tempérament, vos convictions, vos spiritualités, seront d'autant mieux vécus et reçus par vous que vous les penserez. Voilà. Ça, c'est le secret. Oui. C'est le secret d'une formation en théologie et même d'une formation en général, d'une formation humaine. C'est-à-dire, tout m'apporte et tout m'apporte d'autant mieux que ces pensées. Il n'y a pas que l'intelligence mécaniste, on va l'appeler comme ça, déductive, l'intelligence rationaliste. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le cœur que a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Enfin, vous connaissez tout ça, quoi. Ceci est rationaliste, ça n'est pas rationnel. Vous voyez la nuance ? C'est pas raisonnable. C'est même carrément déraisonnable. Ceci est émotionnel et n'est pas raisonnable. Et donc Jean Kelevitch nous propose de voir l'ensemble de notre vécu comme pensable. On peut penser les affects, on peut penser nos sentiments, on peut penser nos comportements et même nos qualités, animés par la raison. Mais la raison n'est rien, ou pas grand-chose, ou si peu, si elle ne vient pas animer tous ces aspects qui ne relèvent pas d'elle. Est-ce que vous pigez le truc ? C'est absolument fondamental. Parce que ça n'isole pas la raison au-dessus des choses. Comme l'a fait René Descartes et le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, qui ont considéré donc que tout ce qui était en dessous de la raison était sans valeur. Y compris notre cosmos, l'air, la terre, c'était à notre disposition. Et on en a subi en ce moment les conséquences, désastreuses. Je vous donne un petit adage de Claude Bruyère. Claude Bruyère, c'est un philosophe, il est mort à 45 ans, c'est vraiment triste. Ce n'est pas exercer toute la raison de ne s'en tenir qu'à la raison. Apprenez ça par cœur, c'est très libérant. C'est très libérant, ouais. Ce n'est pas exercer toute la. Ce n'est pas raisonnable de s'en tenir à la raison. Je vous donne quelques exemples. Ce monsieur a une formidable intelligence de la matière qu'il travaille. Un autre exemple. Il y a même une sorte de communauté de compréhension, d'intelligence dans les comportements entre les hommes et les autres vivants, qui ne relève pas uniquement de la raison. Mais il y a une intelligence là-dedans. C'est, Arkabas qui fait ça. Il y a une formidable intelligence dans ce travail, formidable intelligence. Il y a également une formidable source d'intelligibilité dans la contemplation des choses, dans l'éveil de la beauté, et qui nous donne des impressions sensibles qui sont vraies, et qui n'ont pas besoin d'être justifiés par la raison, mais qui, au contraire, vont enrichir, augmenter la raison. Pareil, là je m'oppose à Nietzsche, pareil pour la pitié. Nietzsche a horreur de la pitié. Il dit c'est le sentiment des faibles et des crétins. Mais moi je dis c'est tout le contraire. Dans la pitié, tout d'un coup, vous avez une formidable intelligence de ce qu'est autrui. Autrui vous en impose. Autrui suscite en vous des gestes qui débordent la raison. C'est jamais raisonnable de donner à un clodo. D'ailleurs, il y en a qui en restent là. Mais la pitié nous oblige. Eh bien, elle a sa forme d'intelligence. Comme l'amour humain. N'est-ce pas ? Aimer, ce n'est pas du tout rationnel. Mais il serait déraisonnable de ne pas aimer. Eh bien, ce que je dis là, je peux le dire de la foi et du travail que nous allons ébaucher ici au CIF. Voilà. Voilà les rapports de la foi et de la raison que je voulais vous exposer. Le mot théologie, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc je m'arrête là. Et je passe la parole. Voilà. À la Bible, j'allais dire.
Roselyne, viens t'asseoir.